Donc on va reprendre, on est en plein milieu du premier chapitre du Perek Aleph. Perek Aleph donc de Tania. On a posé, la semaine dernière, on a fait que poser les questions. Enfin, on a fait que poser les questions. Et Bezrat Hashem, à la fin du cours, je vous montrerai ce résumé. Oui. De quoi? Non, pas nécessaire. Donc, on est en plein milieu de la page 49 pour ceux qui ont lu en français. Ar Biur Ha'inyan. Ar Biur Ha'inyan. Donc les questions qu'on a posées, c'est les questions fondamentales, à savoir... comment est-ce que je dois me voir? Est-ce que je dois me voir comme un tzadik ou est-ce que je dois me voir comme un rachat? Est-ce qu'on peut avoir de l'autosatisfaction? Quelle est la définition absolue du bien et du mal? Qu'est-ce qu'un bénoni? C'est surtout la question, ça. Qu'est-ce qu'un bénoni? Là, parce qu'on a dit, a priori, quand je fais une mitzvah, je suis un tzadik. Quand je fais une avera, je suis un rachat. Donc, qu'est-ce qu'un bénoni? On a posé surtout la question, c'est qui suis-je? Puisque d'un côté, des fois, j'ai envie de faire des mitzvot. D'un autre côté, des fois, je me retrouve à faire des bêtises très très graves. Donc, finalement, qui suis-je? D'accord. Et dernière question qu'on a posée.
C'est quoi un vrai bénoni?
Certaines personnes, apparemment, quand ils naissent, on a l'impression qu'ils sont nés pour être rachats. Donc, ce qu'on appelle le déterminisme. Alors, qu'est-ce que la Torah en pense? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus mauvais que d'autres? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus bons que d'autres?
Oui.
Donc, en d'autres termes, la question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Pour répondre à cette question, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? On va devoir tout décortiquer à la base.
C'est une question qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'un vrai bénoni? Parce qu'il y a un rabbi qui a dit je suis un bénoni.
Exactement, c'est la question qu'on a posée. On a prouvé la semaine dernière, je fais un petit rappel, on a prouvé la semaine dernière que le tzadik et le bénoni n'ont pas de faute. Même la moindre faute, parce que sinon, comment Rava, qui était un très grand rabbi, comment il a pu dire que Gon Ana Benoni, par exemple, moi je suis bénoni. D'accord? Donc là maintenant qu'on a eu toutes ces questions, là maintenant, tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est seulement des introductions. Erev Tov. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la Avodat Hashem, telle qu'elle nous a été enseignée par notre maître, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous apprend que, bien sûr que c'est très important de faire les mitzvot, mais il y a quelque chose de très important qui s'appelle Avodat Pnimit, ça veut dire le travail intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but n'est pas uniquement de faire les mitzvot de manière sèche. Le but... c'est de faire les mitzvot de manière à ce que ça va me changer intérieurement. Ça va me changer intérieurement. Et ce qu'on va expliquer dans la suite de Bezrat Hashem, c'est que la différence entre le tzaddik parfait, le tzaddik imparfait, le rachat absolu et le rachat imparfait, et le bénoni, la différence ne va pas être au niveau de l'action. La différence va être au niveau de l'intérieur. Jusqu'à combien on peut dire qu'il a changé sa nature et son caractère. C'est-à-dire que c'est pas du tout une différence au niveau du comportement, est-ce que je fais des mitzvot ou des averot. Selon le Baal Shem Tov, le but de Avodat Hashem, c'est pour me changer intérieurement. Et qu'est-ce qui va être l'indicateur pour savoir si j'ai changé? C'est pas est-ce que j'ai fait des mitzvot ou des averot. On peut avoir un juif qui fait que des mitzvot et qui est pourri à l'intérieur. On peut avoir un juif qui fait que des averot malheureusement, mais qui a un fond très très bon. Très très bon. Et donc c'est ça ce que le Baal Shem Tov va nous donner, il va nous donner une nouvelle définition. En plus, bien sûr, de la définition de mitzvot et averot qu'on a toujours connue. Le Baal Shem Tov va nous expliquer qu'en vérité, le but, c'est de changer ce qui est intérieurement. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire changer ce qui est intérieurement, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc on va devoir tout déballer. On va commencer d'abord par le premier thème, c'est à savoir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va apprendre que c'est pas une âme qu'on a à l'intérieur, mais c'est deux âmes. On va développer quelles sont les pulsions de la première âme, quelles sont les volontés de la première âme, quelles sont les volontés de la deuxième âme, qu'est-ce qu'elle veut pas. Une fois qu'on aura compris ce qui se passe à l'intérieur, alors là, on pourra comprendre quel est notre travail, et avec ça, une fois qu'on aura compris quel est le combat, alors, on pourra déterminer, on pourra dire à quel endroit dans ce combat on en est. Est-ce qu'on est plutôt tzadik parfait, tzadik imparfait, rachat absolu, rachat non absolu, etc. On y va. Ar Biur Ha'inyan. Ar Biur Ha'inyan, l'explication du sujet. Donc vous avez dans les mots, Ar Biur Ha'inyan? Donc dans le Tania en français, c'est page 49, en bas.
Ouais.
Et dans le Tania qu'on a ici, le Tania de base, page 10, au deux points, Ar Biur Ha'inyan.
D'accord.
Quelle page c'est ici?
50.
Donc 49, 50, 10.
50.
Alors, on y va. Ar Biur Ha'inyan. L'explication du sujet est Alpi Mashekatav Arav Rabbi Chaim Vital Zal. L'explication du sujet va être selon ce que a écrit Rabbi Chaim Vital, Zichrono Livracha. Vous savez que Rabbi Chaim Vital était le retranscripteur principal des écrits du Harizal. Rabbi Chaim Vital a écrit beaucoup de livres. Il n'a pas toujours écrit au nom du Harizal, mais on a une tradition qui dit que tout ce qu'il a écrit, c'est bien du Harizal. Et donc, bon, ce qu'il a écrit, ça vaut de l'or, quoi. Ça veut dire, ce qu'il a écrit, C'est très important.
C'est le Rahim.
Le non.
C'est pas lui.
Non. Non, Rabbi Chaim Vital, c'est autre chose. Rabbi Chaim Vital, non, il a écrit un de ses livres, il s'appelle Sha'ar Sha'are Akdusha, les portes de la Kedusha. Il a ramené ça aussi dans un autre livre, aussi de Rabbi Chaim Vital, Be'etz Chaim, dans un autre livre qui s'appelle L'Arbre de la Vie, Sha'ar Nun Perek Bet. Donc Sha'ar Nun Perek Bet, ça veut dire porte 50, chapitre 2. Donc c'est très structuré avec des portes et des chapitres, etc. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Une porte, c'est un sujet. Il y a des sujets, des chapitres. C'est très très structuré ce qu'il écrit à Rabbi Chaim Vital. Erev Tov. Donc il a écrit comme ça. D'ilchol ish Israël, tout homme d'Israël, echad tzadik ve echad racha. Qu'il soit tzadik ou qu'il soit racha. Yesh shtei neshamot. Chaque personne du peuple juif, peu importe, qu'il soit tzadik, qu'il soit racha, qu'il soit ce que tu veux. De série, il a en lui pas une âme, mais deux âmes. Alors nous déjà on cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle veut l'âme. Et là directement tu dis c'est pas une que tu as, c'est deux. Pourquoi deux? D'où il sort ça? Kedirtiv, comme c'est écrit, Uneshamot ani asiti. Dans Yeshaya, dans Isaïe, c'est écrit, Dieu il dit comme ça. Il dit Ruach milefana yaatof, un esprit sortira de moi et j'ai fait des âmes. Donc Rabbi Chaim Vital pose la question, il dit il y a un problème dans ce texte de Isaïe. Il commence par dire un esprit sort de moi et j'ai fait des âmes. Donc, la différence, c'est que tu passes du singulier au pluriel. On croyait qu'on parlait d'une personne, et tout d'un coup, tu me dis des âmes. Donc, de là, Rabbi Chaim Vital prouve, enfin, si on peut appeler ça une preuve, il n'a pas besoin de prouver ce qu'il dit. Donc, il prouve qu'en vérité, dans l'esprit, à l'intérieur de nous, ce n'est pas une âme qu'on a, mais c'est deux âmes. On expliquera que cette particularité d'avoir deux âmes, page 40, quelle page 49, on a dit 49, en bas de la page.
Non, 50,
on va tourner. À 50, oui. Cette particularité d'avoir deux âmes, est une particularité qui est que pour les juifs. Que pour les juifs. Les non-juifs ont une seule âme. Et c'est pour ça qu'on va commencer par cette première âme, qui est, on va appeler ça l'âme animale. Peut-être on va traduire ça aussi par l'âme primaire. On va expliquer tout de suite, on va tout expliquer. On va répondre à toutes ces questions. On va commencer d'abord par la première âme. Aujourd'hui, on ne touchera pas à l'âme divine. On va toucher déjà à l'âme animale. Et on va expliquer que l'âme animale, même chez l'âme animale, bien qu'a priori tout le monde a cette âme animale, c'est l'âme primaire, tout le monde a cette âme-là, ça veut dire les hommes, les juifs, les non-juifs, les animaux, les poissons, tout le monde a cette âme animale, mais chez le juif, cette âme animale est différente. À part ça, le juif a une seconde âme. On va expliquer. Donc, shtei neshamot, qui dit tibun neshamot ani asiti, she'en shtei nefashot. Donc ces deux âmes, c'est carrément, c'est pas deux pulsions, c'est carrément deux âmes. Ça veut dire comme ça. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. On a toujours tendance à dire qu'on a deux yetzer. Un bon penchant et un mauvais penchant. D'accord? Là, Rabbi Chaim Vital, il pousse plus loin le bouchon. Parce que quand tu dis qu'il y a un bon penchant et un mauvais penchant, ça veut dire que j'ai une seule personnalité. Mais dans cette personnalité, j'ai un penchant qui veut me pousser à faire du bien, un autre penchant qui veut pousser à faire du mal. Ça, c'est comme ça qu'on a toujours compris. Viens Rabbi Chaim Vital et reprend le Baal Shem Tov. Il te dit, c'est pas une personne que tu as à l'intérieur, c'est deux personnes que tu as à l'intérieur. Deux personnalités. Deux. Non, il y en a deux. Deux. C'est déjà pas mal deux. Et donc, c'est pas deux penchants qu'une fois un, il va à la droite et tu vas à la gauche. C'est deux personnes. Et à chaque fois, ces deux personnes se battent pour prendre le contrôle de moi. C'est qui moi? Moi, c'est l'homme. Donc, à un moment, le Yetzer Hara, il veut dire, toi, Mendy Assouline, tu es que du Yetzer Hara. À un autre moment, le Yetzer Tov, il reprend, il dit non, toi, tu es que du bien. Donc c'est pas un combat, est-ce que on va suivre le bon penchant ou le mauvais penchant, c'est pas seulement un penchant. C'est pas quand t'as une voiture, est-ce qu'on peut virer à droite, est-ce qu'on peut virer à gauche. Mais il y a un conducteur, non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a deux chauffeurs. Et à chacun il veut dire c'est moi le chauffeur.
Mais est-ce que tous les choix sont régis par ces deux choix-là?
100%, mais on va développer.
À chaque fois que t'as choix entre deux choses, il y a toujours obligatoire.
Pas du tout, vous allez voir.
Non, là, tu commences à...
Non. On va pas compliquer les choses, regardez.
C'est l'âme animale qui a deux penchants.
J'attends qu'il y a plus de monde, je vous donnerai le document que j'ai préparé, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Alors, dans... c'est très clair. Tu m'avais demandé un... D'accord. Je sais pas qui m'avait demandé encore. Bon, alors, je continue. On va développer ce qu'il dit ici. Ça veut dire comme ça. À l'intérieur de nous, nous avons deux âmes. Pas une âme et deux âmes. C'est pas deux pulsions. C'est pas deux penchants. Nous avons deux âmes. Maintenant, chacune de ces âmes a aussi des pulsions. C'est ce qui explique l'appellation Yetzer Tov, Yetzer Hara. Bon penchant, mauvais penchant. Mais le penchant, c'est déjà une faculté de l'âme. Ça veut dire qu'on a carrément ici deux âmes. Chacune de ces deux âmes se bat contre l'autre. Chacun veut... C'est quoi la guerre? La guerre va dire, qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou est-ce que je suis quelqu'un de mal? Pas qu'est-ce que je vais faire. Peu importe ce que je vais faire. Qui suis-je? C'est-à-dire que la guerre est beaucoup plus profonde qu'on le pense. On va commencer par la première âme. Et curieusement, on va commencer par l'âme animale. Pourquoi on commence par l'âme animale? On aurait dû commencer par l'âme divine, la plus importante. Parce que l'âme divine, elle va rentrer en fonction seulement à partir de l'âge de la bar mitzvah. D'accord? Chez la fille, elle va venir dans son corps depuis la naissance. Chez le garçon, elle va venir depuis la brit mila. Mais elle rentre en fonction seulement à partir de la bar et de la bat mitzvah. Ça veut dire que tant qu'un enfant ne fait pas du tout appel à son âme divine. Alors qu'est-ce que c'est cette âme animale? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait cette âme animale? Nefesh achat, une première âme, mitzat aklipa vasitra achara. On va dire les chayim d'abord, David, tu nous... Allez.
Tu veux jus de pomme, jus de riz, citron, jus...
Moi j'ai mon café.
Tu veux de pain? Oui. Non.
Tout le monde est servi.
Ah, pas vas-y, pomme. Tiens, Dan, attends, merci.
Le Chaim.
Vous avez dédié le cours là pour...
Alors, dédié le cours pour Leilou Nishmat, vas-y. Rudy Shmuel Ben Suzanne Daan. Merci pour la réponse chez les mains de M. Cohen. Alors, Le Chaim.
Encore
les
Chaim.
Elle est puissante, celle-là. C'est des capes.
Je savais pas.
On sent le professeur. J'ai dit on sent le professeur. Non mais j'adore. Restez au col, c'est super. Non,
les olives, on voit des lèvres. Le français, le truc.
J'ai on sent le professeur. C'est parfait, vous inquiétez pas. Au contraire. Donc, nous avons deux âmes. On va commencer par la première âme. Première âme, c'est l'âme animale. Cette âme animale vient miknitsad aklipa vasitra achara. Elle vient de ce qu'on appelle la klipa. La klipa, ça veut dire c'est le mal. Mais je développerai plus tard qu'est-ce que ça veut dire la klipa. On développera ça longuement Bezrat Hashem dans le chapitre 6. On a tout notre temps. À quoi nous sert cette neshama, cette âme? Vei amikla beshet bedam a adam la chayot aguf. C'est très simple. Cette âme, c'est l'âme qui fait vivre le corps. On va prendre deux personnes. Une personne qui est vivante, une personne qui est morte. Il vient de mourir, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes, ses yeux, voyez. Maintenant, il voit plus. Pourquoi il voit plus? Les yeux sont toujours là. Pourquoi il voit plus? Qu'est-ce qui change? Pourquoi il voit plus? Pourquoi il bouge plus? Qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire quoi qu'il est parti? Son corps est toujours là. Qu'est-ce qu'il a quitté? L'âme animale. C'est l'âme animale. L'âme divine, on n'a pas touché. Chaque personne, chaque entité dans le monde a une âme animale. C'est ce qui lui donne la vie. Où se trouve la vie? La vie se trouve dans le sang. On dit que la vie vient par le sang et elle part par le sang. C'est pour ça que dans la Torah, c'est très grave de consommer du sang. Et on dit que la neshama, elle sort au travers du sang. Comme ça, c'est écrit. C'est pour ça que Dieu préserve. Vous savez que lorsqu'une personne a des accidents de voiture, Dieu préserve et qu'une personne part de ce monde, les Hevra Kadisha, ils essayent de récupérer tout le sang qui est autour. Ils font leur maximum avec des éponges et tout. C'est très compliqué. Parce que le sang pour nous, ah oui, chaque parcelle de sang, peut-être la neshama est partie avec ça. Le sang se trouve dans la neshama. D'accord? Quoi? Là? La neshama se trouve dans le sang. Que dire-t-il, comme c'est écrit dans la parasha Harimot, qui nefesh abassar badam hi? Que l'âme se trouve badam dans le sang. Donc là, on n'a pas touché du tout à l'âme divine. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'âme divine. Bonne question, ça change pas. Je suis pas en train de dire que quand tu prends du sang d'une personne, tu l'envoies dans l'autre, tu as transféré la neshama. Je dis que la neshama se trouve dans le sang, c'est-à-dire c'est une entité qui se trouve dans le sang et elle sort du corps au travers du sang. On dit qu'il suffit d'un révit. Un révit, ça veut dire 8,6 centilitres de sang pour contenir la neshama. Ça c'est écrit. C'est écrit qu'elle va sortir avec ça.
Il y a quelqu'un qui est décédé qui n'a pas eu de sang, une maladie.
Il a du sang à l'intérieur.
Oui, mais il n'y a pas de sang qui est sorti.
C'est pas grave, il est à l'intérieur. La neshama est dans le sang. Ah, d'accord, comme ça c'est écrit. C'est pour ça que dans la Torah, c'est très grave de consommer du sang. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle ici d'une âme animale. Vous allez comprendre qu'en vérité, cette âme animale, en vérité, c'est une âme qui est primaire. C'est ce qui va nous donner la majorité de nos pulsions qu'on va développer tout de suite. on l'appelle Nefesh Abassar, l'âme qui nous donne la chair, l'âme qui nous donne la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celle qui va nous donner toutes nos pulsions comme la faim, la soif, la fatigue. Pourquoi des fois je me sens fatigué, des fois je me sens reposé? Qu'est-ce qui fait que des fois je me sens fatigué, des fois je sens que j'ai faim, des fois je sens que je suis rassasié? C'est subjectif tout ça. Ça veut dire quoi je me sens rassasié? Oui, mais comment aujourd'hui j'ai mangé, d'accord, j'ai mangé 200 grammes, je me sens rassasié. Demain, j'ai mangé 300 grammes, je suis pas rassasié. C'est pas seulement lié au corps. Il y a quelque chose qui dépasse le corps. C'est quelque chose qui est lié à l'âme. C'est-à-dire que c'est une sensation. C'est une sensation, mais en vérité que tu retrouves même chez les animaux. C'est pas spécialement lié aux hommes. Un animal aussi, il a envie de manger, il a envie de boire, il a envie de dormir, il a des plaisirs, il a envie d'avoir des relations, il a tout. Comme un homme. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âme animale, parce que c'est très primaire. D'accord. Maintenant, cet âme animale, à quoi elle sert? Umimena ba'ot kol amidot ra'ot marba yosolot ra'im sheba. De cet âme animale vont venir toutes les mauvaises midot, tous les mauvais traits de caractère. Alors, faut bien qu'on comprenne, quand on dit mauvais ici, c'est pas mauvais dans le sens que nous on connaît mal, mais il faut comprendre ici mauvais dans le sens égoïste. Et il va développer. Mais avant de développer la suite, il faut que je ramène une chose qui est expliquée longuement dans le Rambam, dans Ilchot Yisodei HaTorah, dans les lois des fondements de la Torah. Et c'est ramené aussi dans la Gemara dans quelques endroits par allusion. Notre monde est basé sur quatre éléments. Esh, Ruach, Maïm, Afar. D'accord? Esh, le feu. Ruach, le vent. Maïm, l'eau. Afar, la terre. Chaque élément qu'il y a dans notre monde est basé sur ces quatre éléments. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons par exemple que j'ai un morceau de bois devant moi. Je vais brûler ce morceau de bois. D'accord? Ce morceau de bois, il pesait combien? Il pesait par exemple, je sais pas moi, 1 kilo, je vais le brûler. La poussière, elle va peser combien? Quelques grammes. Où est parti le bois? Où il est parti? Il y avait une matière ici, où est partie cette matière? Alors c'est très simple. Les quatre matières, les quatre éléments qu'on a parlé ici, sont retournés à leur source. Quand j'ai brûlé ce morceau de bois, le feu est reparti dans sa base. Donc la base du feu, dit le Rambam, c'est à côté de la lune. Il a tiré, le feu est toujours attiré vers le haut. Parce que là-bas est sa source. Ça, c'est le hesh, le feu. Ruach, le vent. Le vent, c'est quelque chose qu'on connaît, le vent. Quand j'ai brûlé, il y a eu du vent qui est passé. Ce vent a récupéré le vent qu'il y avait, le souffle qu'il y avait dans ce morceau de bois. Ensuite, il y avait l'eau. L'eau, c'est l'humidité. Dans chaque chose, c'est l'humidité. D'accord? On voit bien qu'il y a un morceau de bois qui est humide, un morceau de bois qui est asséché, on voit la différence. Où est partie l'eau? Bah, pareil, quand tu l'as brûlé, l'eau est repartie avec l'eau. Elle s'est évaporée, donc c'est l'évaporation, donc c'est l'eau. Et enfin, afar, la poussière, c'est quoi? Ben, c'est la poussière qui est restée à la fin. C'est-à-dire que là, on a assisté à la décomposition d'un élément. En vérité, n'importe quel élément qu'on a autour de nous, d'après le Rambam, il dit clairement dans la loi des fondements de la Torah, n'importe quel élément autour de nous, il y a ces quatre fondements. Quatre éléments, quatre bases. Esh, Ruach, Maïm, Afar, le feu, le vent, l'eau et la terre. Seulement, c'est le dosage entre les quatre qui fait la différence entre les éléments. Par exemple, si je prends un café, dans le café, l'élément majeur, c'est quoi?
L'eau.
Mais je peux avoir aussi un peu de feu. Par exemple, si le café est chaud, donc j'ai un élément de chaleur qui est à l'intérieur. Et dans tous les éléments que vous avez autour de vous, quand je prends par exemple le bois qui est autour de moi, l'élément majeur c'est quoi? C'est la terre, c'est le fait que c'est quelque chose qui tient. Il y a aussi un peu d'humidité. C'est-à-dire chaque chose qui est autour de nous est toujours ces quatre éléments. Après, bon, il y a des penseurs qui ont voulu associer ça à d'autres notions scientifiques aujourd'hui comme liquide, solide, gaz, etc. Mais je ne vais pas rentrer dedans. En tout cas, nous, on va s'arrêter au Rambam, qui dit qu'il y a quatre fondements. Maintenant, Admon Razakhen, il va pousser plus loin. Il dit en vérité, quand on dit qu'il y a ces quatre fondements-là, c'est pas seulement dans les objets physiques. C'est pas seulement dans les objets physiques qu'il y a ces quatre fondements. Mais dans les objets métaphysiques, comme l'âme. Et bien même dans l'âme, on retrouve ces quatre éléments. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette âme animale, on va retrouver ces quatre éléments. On va retrouver l'aspect feu qu'il y a en moi, l'aspect eau qu'il y a en moi, l'aspect vent qu'il y a en moi, et l'aspect terre qu'il y a en moi. Ça veut dire que c'est des éléments qui sont pas forcément physiques. C'est vrai que nous, quand on se les imagine, on imagine quelque chose de physique. Le feu, c'est physique. Le vent, c'est physique. La terre, c'est physique. Et l'eau, c'est physique. Mais en vérité, c'est pas forcément physique. Ça peut être aussi métaphysique. Alors, comment on retrouve ça dans l'âme? Et là, on va expliquer. Qu'en vérité, dans cette âme qui est primaire, on a dit que ça veut dire qu'il nous assure la vie. Et ce qui fait que le corps vit. Ce qui fait que le corps vit. C'est ce qui a fait la différence entre un corps vivant et un corps mort. C'est ce qui fait aussi la différence, par exemple, quand on dit, par exemple, une personne, sa main n'arrive plus à fonctionner. Pourquoi elle fonctionne plus? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, tout est là. Les connexions sont là, mais la main ne fonctionne plus. Pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce que la neshama, son âme animale, n'arrive pas à envoyer de l'énergie. Il faut un corps et de l'énergie. D'accord? Il faut, c'est comme ça. Il faut le corps et l'énergie. S'il y a le corps sans l'énergie ou l'énergie sans le corps, ça marche pas. Il faut les deux. Donc cet homme animal, on la retrouve partout. N'importe quelle chose qu'il y a dans le monde, il y a forcément une énergie et un corps. Cette énergie, on a dit maintenant, on retrouve quatre éléments dans cette énergie. Alors maintenant, on va reprendre maintenant l'âme que j'ai en moi. Donc tu m'as dit, j'ai une âme animale. C'est celle qui me donne la sensation de fatigue, la sensation de repos, la sensation de faim, la sensation de la recherche du plaisir. Donc enfin, les choses primaires, quoi, comme un animal. Exactement comme un animal. Un animal, il veut manger, il veut dormir. Maintenant, on va essayer de retrouver les quatre aspects. On va commencer.
Juste, l'âme animale est dans le sang ou c'est le sang?
Non, elle est dans le sang. Elle s'habille dans le sang. C'est pas le sang. Elle s'habille dans le sang. On va dire, elle s'attrape au sang. On expliquera après que l'âme divine, son siège, c'est le cerveau. L'âme animale, son siège, c'est le sang. Elle est véhiculée par le sang. D'ailleurs, on le voit parce que l'élément le plus important dans la vie d'un homme, c'est le sang. On peut avoir des gens qui ont le cerveau, Dieu préserve, pas qui est HS, s'il est HS, il est HS, mais qui est, Dieu préserve, grave de chez grave, mais le sang, c'est le plus important. Le sang, c'est, dès que le sang ne circule plus, ça y est, c'est fini. Le sang, c'est le plus important. Le sang, c'est l'essence. Le sang, c'est ce qui assure la vie. Ce qui assure la vitalité. D'accord? Alors, on va essayer de s'arrêter maintenant sur les quatre éléments. Premier élément. Daïnou, ça veut dire. Kaas, vega ava. La colère et l'orgueil. Ça veut dire la pulsion de la colère et la pulsion de l'orgueil. Ça, d'après vous? C'est le feu. Bon, la colère, c'est facile. Parce que quand je m'énerve, je suis chaud comme le feu. Mais l'orgueil, quel rapport entre l'orgueil et le feu? Non, quel rapport entre l'orgueil et le feu? Alors. C'est très simple. Il y a plusieurs explications sur ça, parce que l'Admor HaZaken n'a pas expliqué. Mais l'Admor HaZaken, il dit ici que Yesod Aesh et Nikbal et Mala. Il dit, c'est quoi la nature du feu? Le feu, il va toujours du bas vers le haut. On est d'accord. La direction naturelle du feu, contrairement à l'eau, qui sa direction naturelle, c'est du bas vers le, du haut vers le bas. Le feu, sa direction naturelle, c'est du bas vers le haut. Vers le haut. Toujours plus haut, toujours plus haut. Une personne qui est orgueilleuse, c'est quoi? C'est une personne qui va être encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Donc, le côté feu qui est en une personne, c'est quoi? La colère, quand une personne s'énerve, donc ça c'est le côté feu qui est en lui, et aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est le côté feu qui est en lui. D'accord? Maintenant, on n'est pas en train de dire que c'est mauvais, je veux dire, on est né comme ça. Quand on dit mauvais ici, c'est, on va expliquer après que, c'est, quand on dit mauvais, ça veut dire qu'il faut me travailler dessus. Il y a même des animaux qui sont comme ça. Je suis né avec ça. Mais c'est la réalité. Donc, il y a le côté feu qui est en moi. Ça, c'est facile. Maintenant, le deuxième, on a dit, il y avait Esh, Roach, Maïm, Afar, le feu. Donc le feu, c'est la colère et l'orgueil. Ensuite, il y a l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau qui est dans la Neshama. C'est quoi l'eau en métaphysique? L'eau, si je vous dis l'eau, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça descend.
D'accord. Je vous dis l'eau, qu'est-ce qui vous passe par la tête?
La pureté.
La pureté, la vie, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Le quoi? Le calme, oui, quoi encore? Vous n'allez pas en vacances des fois?
La plage.
Hein? C'est quoi l'eau? Qu'est-ce que ça amène?
C'est l'abondance.
C'est vrai qu'on est en hiver. Mais... C'est quoi l'eau?
L'abondance.
L'eau, d'après le Zohar, c'est la source du plaisir.
L'eau.
Oui. Okay. L'eau, ça procure du plaisir à une personne. Il y a quelque chose dans l'eau qui fait que lorsqu'une personne se douche, lorsqu'une personne se baigne, l'eau, ça procure du plaisir à la personne. Un plaisir, c'est quelque chose qui n'est pas vital. C'est quelque chose qui est un bonus, c'est un plaisir, c'est un kiff. D'ailleurs, le Zohar il rajoute un deuxième point.
C'est pas vital.
Non, je parle baigner. C'est pas vital.
Mais boire c'est vital. Ouais.
Boire c'est vital. L'eau selon le Zohar, c'est aussi ce qui fait pousser toutes sortes de choses. C'est ce qui va faire pousser par exemple des fruits, ce qui va faire pousser des tas de choses. Donc l'eau selon le Zohar, c'est la vie et pas seulement la vie, c'est le plaisir. Maintenant, le plaisir, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est positif ou négatif? Le kiff.
Il faut doser.
Ouais, ça dépend.
Hein? Le plaisir.
Ça dépend.
Alors, il y a un plaisir positif, il y a un plaisir négatif. Ah oui. Mais s'il y a un plaisir, c'est forcément égocentrique.
Non. Oui, puisque
si. Parce que s'il y a un plaisir, c'est je veux.
Ah oui.
Et ça m'a fait plaisir. On expliquera plus tard que des fois, par exemple, tu peux donner la tzedaka à quelqu'un. Oui. Donc c'est du chesed, c'est bien ce que tu as fait. Mais c'est égocentrique. Ça m'a fait plaisir. Ou bien ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Donc c'est moi.
Il n'y a pas de mal d'avoir plaisir.
J'ai pas dit qu'il y a du mal. Encore une fois, quand je dis du mal ici, c'est pas du mal dans le sens mauvais. C'est mal dans le sens égocentrique. D'accord? Donc le premier, déjà, la colère, c'est égocentrique à 100%. Parce que la colère, si je m'énerve, c'est que ça m'énerve. Ça veut dire les choses ne se sont pas passées comme j'aurais voulu. L'orgueil, c'est égocentrique à 100%. C'est je. Le plaisir, c'est aussi égocentrique. C'est, je suis à la recherche du plaisir, j'aimerais avoir ça, je veux ça, je veux pas ça, d'accord? Je veux ça maintenant, je veux pas ça maintenant. C'est toujours je. Ça, c'est l'eau. L'eau, c'est le plaisir. Donc, on a dit avec quatre éléments. On a déjà développé deux éléments. Donc, le premier élément, c'est le feu qui est en moi. Deuxième élément, c'est l'eau qui est en moi. Donc, c'est la recherche du plaisir. Donc, ça, on comprend. Troisième élément, le vent. C'est quoi le vent? Si je vous dis le vent, d'accord? C'est les choses futiles. Alors, en nous aussi, on a une nature. Hein? Non mais, ah oui, vous savez, ça sert, hein, la traduction. Ah, mais ça se lit comme un roman, vraiment, c'est magnifique. Donc, l'eau. L'eau, c'est quoi, l'eau? Non, l'eau, on l'a développé, pardon. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est du vent. On dit, par exemple, c'est du vent, c'est vide. Donc, on a des pulsions vaines chez nous aussi. Comme par exemple, Hollelout. Hollelout, c'est la vanité. Je fais rien, des bêtises.
C'est un péché.
Vous savez, on dit que il y a la limite qu'il y a entre la simcha, la joie, et la hollelout, qui est la frivolité. La limite est très très fine. Ça veut dire que des fois, quand tu vois des gens en train de se réjouir, tu sais pas s'ils sont en train de se lâcher ou s'ils sont joyeux. Parce que la joie, c'est un sentiment très profond dans lequel tu intériorises quelque chose et tu es content de quelque chose. Mais la frivolité, c'est que tu te lâches. Tu vois quelqu'un danser, est-ce que ça veut dire qu'il se lâche ou est-ce que ça veut dire qu'il est joyeux intérieurement? Très compliqué à répondre. Très très compliqué.
Est-ce que l'alcool, ça compte?
Alors, mais pareil. L'alcool, est-ce que ça permet à la personne de trouver... L'alcool, ça peut avoir deux effets. Premier effet, ça permet à la personne de faire ressortir sa vraie personne. Donc sa vraie personne, c'est qu'il a envie de servir à Kadosh Baruch Hu, ça c'est bon. Mais d'un autre côté, ça peut amener une personne à la frivolité. Frivolité, c'est on se lâche, on n'écoute plus personne, et les limites naturelles que j'ai, elles sautent. Ça c'est pas bon. Ça c'est frivolité, ça. C'est du vent, ça. D'accord, donc c'est des pulsions qui sont très très difficiles à gérer, ça.
Les chayim.
Sur ce, les chayim. Alors. Veholelout. Holelout, donc c'est la vanité, la frivolité. Veletsanout, la moquerie. La moquerie, il y a des gens qui sont moqueurs, ils se moquent. Pourquoi tu te moques? D'accord?
C'est d'orgueil.
Quel sens il y a dans se moquer? Quelle logique il y a? Est-ce qu'il y a une logique dans le fait de se moquer de quelqu'un? C'est vide. C'est creux. Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ont un yetzarara de moquerie, ou bien de la chanara aussi. Des fois, c'est une envie profonde, c'est une nature, t'as des gens, ils vivent sur ça, les potins et les moqueries. Ve'it pa'arut. Autre chose qu'on a aussi du côté vent, it pa'arut, ça veut dire s'enorgueillir, mais là, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure, on parlait de s'enorgueillir de quelque chose que j'ai. Là, on parle de celui qui s'enorgueillit de quelque chose qu'il n'a pas.
Un mytho,
voilà. Un mytho. Du vent, c'est du vent. Mais il y a des gens, ils sont comme ça, c'est du vent. Ou Dvarim Betelim. Et enfin, le quatrième, c'est quoi? Dvarim Betelim, c'est les futilités. C'est-à-dire, des fois, tu peux rester une heure à discuter. De quoi on a parlé?
Rien.
T'es parti sur Internet pour chercher une information. Bon, ça devrait prendre 30 secondes. Une heure plus tard, qu'est-ce que ça fait? Rien. Dvarim Betelim. Mais des fois, c'est quelque chose on sent, c'est comme un besoin. T'as besoin de rien faire. D'accord? Ça vient de quel élément? Ça vient de l'élément du vent, le vent. Enfin, le quatrième, c'est quoi? Ve'atzlut, ve'atzvut, miyesot et afar. Le quatrième, c'est la terre. Qu'est-ce que ça représente, la terre? Qu'est-ce que ça évoque comme image, la terre? La terre, c'est ce qui retombe. Comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand j'ai brûlé. D'accord? Chacun, il est parti. L'eau, elle est partie. Le feu, il est parti. Le vent, il est parti.
C'est ce qui reste.
Le seul qui est resté, c'est la terre. Donc la terre représente deux choses. Représente la fainéantise. C'est quoi la fainéantise? La paresse. Ouais. C'est comme la terre. Tu retombes. Et atzvut, la tristesse. Mais la tristesse, en vérité, il faudrait traduire ça par déprime. Parce que on explique en chassidut qu'il y a une grande différence entre la tristesse et la déprime. La tristesse c'est positif et la déprime c'est négatif. Je vais expliquer la différence. Imaginons qu'il y a une chose qui m'a fait de la peine. Deux options. Première option, je suis dégoûté, je me mets sous la couverture et j'oublie tout. Ça, c'est la déprime. Deuxième option, je me reprends et je dis, je vais réussir. Ça veut dire que c'était de la tristesse. C'est-à-dire que la tristesse pousse une personne à agir, la déprime pousse une personne à s'arrêter. Donc, si elle pousse une personne à s'arrêter, c'est comme la terre, ça retombe. Donc pareil, c'est les natures qu'il y a en nous, ça, la déprime, la tristesse. Mi yesod et afar, bonsoir, ça vient du yesod et afar, ça vient du fondement de la terre. Donc, je résume. On a expliqué ici que nous avons en nous une âme animale. Cette âme animale se trouve dans chaque élément vivant sur Terre. On va s'arrêter sur nous maintenant parce que nous, on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Chez chaque personne qui vit sur Terre, juif, non-juif, enfant, tzadik, rachat, peu importe, il a cette âme animale qui va lui donner les fonctions primaires. Les fonctions primaires qui sont principalement égocentriques. Toujours autour de l'homme. Je veux pas. J'ai faim, j'ai soif. J'ai plus faim, j'ai plus soif. Je veux dormir, je suis reposé. Toujours je. D'accord ? Et donc là, on a amené les quatre éléments. Quatre éléments, je le répète rapidement. Je suis énervé. Je m'enorgueillis, donc c'est encore une fois je veux le plaisir. Donc on, après on a dit il y a le côté vanité, d'accord. Donc le côté vanité, ça c'est moins égocentrique, mais bon c'est le côté vide. Et le quatrième c'est quoi? C'est je suis pas bien, j'ai pas envie de faire, toujours je. Vous allez me dire mais on est né comme ça, l'homme est comme ça, on va pas changer le monde. On est comme ça. Tout ce qu'on fait quelque part, il y a toujours un intérêt. Même un intérêt de l'homme, il y a toujours un intérêt. On expliquera plus tard que même un juif religieux, il a forcément un intérêt dans ce qu'il fait. On peut avoir un intérêt noble. Par exemple, quelqu'un qui dit « je fais une mitzvah pour avoir le Gan Eden ». C'est un intérêt. Donc il y a forcément un intérêt. Donc s'il y a un intérêt, c'est égocentrique. L'homme est égocentrique. L'humanité est égocentrique. C'est ce qui fait avancer les gens. Sinon, pourquoi tu veux que j'avance? J'avance parce que je pense que je vais obtenir quelque chose. Exactement. Le monde a été créé pour moi. Donc, c'est normal. La Noura Zakai n'est pas en train de dire que c'est pas normal ce qui se passe ici. Il t'explique simplement ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on s'arrête un petit peu, on se rend compte que c'est vrai. Tu dis, mais attends, mais mince. Tu dis, mais c'est vrai. Toute la vie, c'est je. Ce qu'on expliquera plus tard, c'est que l'âme divine, elle, c'est pas je. Elle est constamment focalisée sur qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est pour le cours la semaine prochaine. Là, pour l'instant, on est sur l'âme animale. Donc on a dit quatre éléments. Maintenant, les gam midot tovot de cette neshama vont venir également, midot tovot, les bonnes midot, chez Beteva, Kol Israël, Betol Dotam. Ça veut dire qu'en vérité, cette âme, c'est l'âme qui nous donne les choses primaires, les natures, les pulsions primaires de la personne. Chez le juif, il y a aussi des pulsions primaires positives que chez le juif. On va expliquer tout de suite pourquoi. Comme Kirmo, par exemple, Rachmanout. Un juif, par définition, normalement, les juifs ont trois qualités. Ici, il va citer que deux qualités. Je vais expliquer pourquoi. Normalement, on a toujours appris que les juifs ont trois qualités. La définition d'un juif, c'est qu'il doit avoir trois qualités. Rachmanout, Baishanout et Gmilut Rassadim. Rachmanout, c'est la miséricorde. Baishanout, c'est la timidité. Et Gmilut Rassadim, c'est la générosité. D'accord? Les bonnes actions. Alors, c'est une qualité, ça veut dire.
C'est la discrétion.
C'est la pudeur, la discrétion. D'accord? Maintenant, vous remarquez qu'ici, Kemo, par exemple, Rachmanout et Gmilut Rassadim. Là, maintenant, la Gmora Zakem ici, il ne parle pas ici de la timidité, de la discrétion. Il n'a pas mentionné cette qualité-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans le commentaire du Marsha, là-bas, sur la Gemara, dans la Gemara Yevamot, le Marsha, il pose la question, il dit, mais comment tu peux me dire que les juifs sont timides? Pourtant, on voit le contraire. Les juifs sont loin d'être timides, c'est le contraire. Et qu'est-ce qu'il répond le Marsha? Le Marsha, il répond là-bas, il dit, en vérité, les juifs sont razines chez Baumot. C'est les plus gonflés, c'est les plus gonflés des nations. Alors pourquoi on dit que la mida des bénis Israël, c'est la baïchanout, la timidité? Parce que au don de la Torah, Dieu nous a donné la force au travers de la Torah de nous travailler pour transformer cette chutzpa en timidité, en discrétion. Mais ça, il faut faire un travail, c'est pas de série. C'est pour ça que la Gemara Zaken n'en parle pas. Parce que de série, un juif n'est pas timide. Un juif, il est là, et le monde est pour moi, le monde est à moi. C'est moi le patron ici. Hein? C'est pour ça qu'il n'en parle pas. Dominateur, comment il avait dit? Dominateur, sûr et dominateur.
Sûr de lui, dominateur.
C'est ce qu'il a ressenti. On ne peut pas négliger ce qu'il a ressenti. Donc, Kemo Rachmanout Ugmilut Rassadim Baot Mimena. Donc ça veut dire quoi? Chez le juif, cette âme primaire, je ne vais pas toucher à l'âme divine encore, chez le juif, cette âme primaire, mis à part tous les aspects égocentriques qu'on a vus jusqu'à maintenant, elle a aussi des bonnes midotes, comme par exemple l'envie de donner et la miséricorde. Ah maintenant on va poser une question, on va dire, mais attends, tu viens de me dire que cette âme-là, elle vient, que l'âme animale, elle vient de la klipa. La klipa, c'est le mal, c'est égocentrique. Alors comment expliquer que cette âme qui vient de la klipa, chez le juif, elle a aussi des aspects positifs, des aspects non égocentriques? Et il répond, on va expliquer tout de suite. Kibé Israël, car chez le juif, Nefesh zo di klipa, imi klipat noga, shiesh bagam kentom. Et là, on touche en vérité à un autre sujet qui sera développé longuement dans le chapitre 6. Et Bezrat Hashem, à la fin du cours, je vous montrerai le résumé, vous montrer le chemin du Tania. Donc, dans le, chez le juif, tiens, tu m'as pris un livre, là?
Voilà.
Alors, chez le juif, en vérité, ce qu'il va expliquer, c'est qu'il y a deux catégories de clipins. Dans le monde, il y a trois choses. Il y a le bien absolu, le mal absolu, et ce qui est neutre. D'accord? Il y a les choses bien, il y a les choses mauvaises, il y a ce qui est neutre. J'explique. Un exemple très simple. Faire une mitzvah, mettre les tefillin. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bien. D'accord. Manger du cochon, c'est bon ou c'est pas bien?
C'est mauvais.
C'est mauvais. Boire un café.
C'est bien, ça fait une mitzvah. Tu fais un bras.
C'est bon dans le
cochon. Pourquoi je bois un café?
L'âme animale.
Non, pourquoi je veux boire un café? Le matin, tu prends un café. Pourquoi tu prends un café?
Pour?
Pour prendre des forces. Pour prendre des forces pour faire quoi?
Pour prier. Ah. Ben oui. Pour faire des mises votes. Mais bon.
Mais tu peux prendre un café aussi. Tu peux prendre un café aussi pour prendre des forces pour faire des bêtises. Donc le café, c'est neutre.
Ah oui, d'accord.
Et en plus, c'est parlé.
C'est neutre. Ah oui.
C'est neutre. C'est neutre. Tu fais ce que tu veux.
Tu peux l'utiliser de manière.
Tu peux l'utiliser. Donc c'est neutre. Donc c'est blanc.
Ouais.
Non, c'est non.
Mais d'accord.
Non, mais t'as pas d'obligation d'habiter là-dessus.
Tu fais ce que tu veux avec. Oui. Tu peux l'utiliser en bien, tu peux l'utiliser en mal. Donc, ce que l'expliquera dans le chapitre 6, c'est que de manière.
Les misotes aussi.
Non, les misotes, c'est que du bien.
Bah non, ce qui peut être Srichot Kavana.
Non, on expliquera, que même sans Kavana, c'est du bien. C'est pas du bien absolu, mais c'est du bien. On développera tout ça. Une mitzvah, c'est du bien. Une avéra, c'est du mal. C'est-à-dire, même celui qui fait, il mange un morceau de cochon avec 10 000 brachot et 10 000 yiratson et 10 000 kavanot, il n'y a rien à faire.
Ah bon?
C'est du mal absolu.
Il y a pas une petite...
Mais non, celui,
il y a pas une petite bénédiction.
Celui qui met les tefillines, même si avant de mettre les tefillines, il a insulté Dieu, excusez-moi de Chassé Shalom, il a fait la mitzvah. Parce qu'une mitzvah, c'est du bien absolu. D'accord? Une mitzvah, c'est du bien, une avéra, c'est du mal, c'est tout. Après, il y a des nuances. Il y a bien absolu, bien pas absolu, c'est des nuances. Mais une mitzvah, c'est du bien, une avéra, c'est du mal. Mais est-ce qu'il y a entre les deux? Ce qu'il va expliquer ici, c'est que l'âme animale des nations, elle vient du côté klipa, du côté du mal. Alors, encore une fois, il faut attendre la fin du cours parce que le mal, c'est pas dans le sens que nous on entend mal, mauvais, méchant. Non. Mal, ça veut dire égocentrique. Et c'est normal qu'on est égocentrique. On est tous égocentriques. Dieu a donné aux juifs la capacité de faire les choses sans intérêt. Mais ça, il faut qu'on développe. Donc, je reprends. Chez le non-juif, l'âme animale, l'âme primaire, est uniquement égocentrique. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on a été créé. Chez le juif est aussi égocentrique. La majorité des choses que nous on fait aujourd'hui, c'est égocentrique. Mais Dieu a donné aux juifs la capacité de faire les choses, pas par égocentrisme, mais parce qu'il faut le faire. Je vais donner un exemple très simple. Et là, un exemple très simple. Regardez. Imaginez par exemple, je sors dehors dans la rue. Je vais pour aller acheter à manger. Aujourd'hui, très simple. Je sors pour aller au restaurant. Voilà. Je vais aller au restaurant avec ma femme. Je sors pour aller au restaurant, je vois dans la rue, il fait froid dehors, il fait 0 degré, je vois un monsieur qui est assis par terre. Je sors de la voiture pour aller au restaurant, dans le chemin, je vois, ou bien en sortant du restaurant, comme tu veux, je vois un monsieur qui est assis par terre. Et qu'il est là, comme ça, il grelotte, le pauvre. Il dit, donnez-moi à manger, s'il vous plaît. Ça fait pas de la peine? Bien sûr, ça fait de la peine.
Ça
dépend. Alors, attention. Qu'est-ce que tu vas faire? Instinctivement, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, t'as envie de mettre la main à la poche pour l'aider.
Bah oui.
Pourquoi tu veux l'aider?
C'est pas juste.
T'as de la peine.
Donc parce que ça me fait de la peine. C'est-à-dire, s'il m'avait pas fait de la peine, je l'aurais pas donné. Attends, deux secondes. Est-ce que je vais calmer ma conscience en faisant ça?
Bah oui,
mais on est bon naturellement.
On se déculpabilise.
Écoutez ma question. C'est une question très puissante. Pourquoi je le fais? Donc pour moi, parce que je suis dérangé. D'accord. Ou bien parce que ça me fait kiffer d'aider les gens. Il y a des gens qui kiffent aider les gens. Il aime. J'aime aider les gens. J'aime être quelqu'un de bien, quelqu'un de social, quelqu'un qui aide. Donc encore une fois, c'est pour moi. C'est bien. J'ai pas dit que c'est mauvais. Mais c'est égocentrique. Ça veut dire que le jour où ça m'intéresse pas, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Ça veut dire ce même monsieur. Si je vais tous les jours au restaurant et tous les jours je le vois, et ben au bout d'un moment, bon, la première fois, deuxième fois, troisième fois, ça va marquer. Quatrième fois, ça me fait plus rien. Donc puis ça me fait plus rien. Est-ce que je vais mettre la main à la poche?
Non.
Pourquoi non? Parce que mon ego n'a pas été touché.
Ça va s'émousser.
Ou alors tu t'es habitué à le voir.
Donc, puisque je suis habitué, donc mon ego n'est plus dérangé.
Oui, mais.
Mais c'est pas négatif. C'est comme ça. On est créé comme ça. On a été créé comme ça. C'est comme ça. D'accord ?
C'est pas de ça qu'il parle là.
Ah, c'est 100%, il parle de ça.
Non, parce que tu as dit que Ra'a, ça veut dire égocentrique. Donc Tov, ça veut dire non égocentrique.
On va voir. Il y a Ra'a, d'accord ? Il y a neutre et il y a Tov.
Là, on parle
pas du tout du Tov. On va parler que du.
Non,
mais il va expliquer tout de suite. Il avait dit que chez Yashbagam Katov, il explique que c'est Klipat Noga. Tout de suite, il explique après. D'accord ? Ça veut dire, là, on parle pas du tout du bien. Non, même un juif, pourquoi il va faire la Tzedaka ? Parce qu'il y a une raison. Et je vais te dire plus que ça. Je vais aller plus loin que ça. Je vais pousser le bouchon encore plus loin. Très simple. Regardez. Imaginons que, bon, ça me touche pas. Monsieur est venu parler pour ramasser de l'argent. Ça m'a pas touché. Ça, ils viennent tous les jours, ça me touche pas. Je vais quand même donner. Pourquoi je vais donner ? Il faut que je me donne une raison. Qu'est-ce que je vais me donner comme raison ?
Pour faire plaisir à Dieu.
Non, parce que je le fais parce que c'est une.
Une mitzvah. Et.
Que je
dois la faire.
Et.
Et ça me fait du bien.
Et. Non. Si je fais beaucoup de mitzvot. Alors j'aurai la réussite dans mes affaires. Alors j'aurai la réussite avec mes enfants. Alors j'aurai un Gan Eden. Alors j'aurai pas le Gehinnom. Donc c'est un intérêt.
On croit plus au.
Donc il y a toujours un intérêt. Donc il y a un intérêt.
On croit plus au 25 décembre.
Et encore des différents dégoûts.
Non. Alors. Donc il y a un intérêt. Qu'est-ce qu'explique ici le rabbi? Qu'est-ce qu'explique ici l'Admour Hazaken? L'Admour Hazaken explique ici. Il dit qu'un juif. Je dis pas que c'est par défaut comme ça, mais un juif a cette capacité qu'il est capable de faire une bonne action de manière désintéressée. Ça ne veut pas dire qu'il le fait toujours de manière désintéressée. Mais s'il veut, il a en lui la force de faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Chez un non-juif, c'est impossible. Mais c'est pas mauvais, c'est comme ça que les hommes sont créés. C'est une fonction, deux secondes, je finis le développement, après on lit dans les mots, c'est une fonction que Akadosh Baruch Hu a donnée qu'aux juifs. La capacité de faire du bien de manière désintéressée. Il l'a pas donné aux non-juifs. Et c'est normal. Et c'est pour ça que la majorité du temps, on est comme ça. Bonne question. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut dire que chez les nations, est-ce qu'on peut dire, c'est pas négatif ce qu'il a dit, c'est la vérité, on se retrouve dans ce qu'il a dit. D'accord? C'est juste pas désintéressé, c'est pas grave. On peut avoir un intérêt noble. Par exemple, l'intérêt de vouloir aider les gens, ça peut être un intérêt. Néanmoins, ici ramène qu'il y a un Mahamar du rabbi précédent, je crois, qui ramenait comme ça, qui disait que les chassidé umat haolam, il y a des gens chez les nations qui ont l'appellation chassidé umat haolam. Ça veut dire les justes parmi les nations. Comme on en a vu pendant la Shoah, beaucoup comme ça qui ont fait des grandes actions. Ouais. Et on dit, le Rambam, il dit que ces justes-là, c'est des gens qui font le bien de manière désintéressée. Donc, on peut retrouver ça aussi chez certaines personnes chez les nations. C'est ce qu'il dit Rambam. Mais c'est très très rare. Avoir cette appellation. Pas du tout. On a vu, franchement, pendant la Shoah, on a vu des gens qui ont fait sans aucun intérêt. Vraiment des gens, même pas l'intérêt de.
Mais
d'ailleurs, il y a une enquête très sérieuse.
J'ai pas mal jugé, mais des fois, il y a des goïms qui ont fait ce que des juifs n'ont pas fait. D'accord. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'était pas intéressé. C'est le Rambam qui dit ça. C'est le Rambam qui dit ça. Alors c'est une marloquette. Je comprends ton point de vue. C'est une marloquette. C'est une marloquette. Est-ce que chez les non-juifs peut exister Rabotai? On reprend le fil. C'est une marloquette qui est entre les grands penseurs juifs. Est-ce que chez les non-juifs peut exister le bien désintéressé? Certains pensent que non. Mais nous, dans le Tania, on suit beaucoup le Rambam. Rambam pense que de manière générale, par définition, un non-juif ne peut pas avoir le bien désintéressé. Mais certaines personnes triées sur le volet chez les goïms, qui ont l'appellation chassidé ou mata olam, c'est des gens qui ont réussi à faire le bien de manière désintéressée. Mais chez un juif, chez les non-juifs, c'est très très rare.
Il y en a 6 ou 8.
Chez un juif, c'est accessible beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que n'importe quelle personne autour de la table.
Je suis pas d'accord, je m'excuse.
De quelque chose de désintéressant.
Très simple. Quelqu'un me demande la tzedaka. Je lui donnais la tzedaka. Pourquoi je lui donnais la tzedaka?
Toi.
Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai un intérêt? Est-ce que c'est parce qu'il m'a fait de la peine? Non, il m'a pas fait de la peine. Est-ce que c'est parce que je veux le Gan Eden? Non, je connais pas le Gan Eden. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'y ai jamais été. C'est pas un vecteur qui va me pousser. Alors pourquoi j'ai donné? J'ai peur du Gan Eden, j'ai jamais vu le Gan Eden. Pourquoi je lui ai donné? D'accord. Un juif a la capacité, mais ça on développera plus tard. Bezrat Hashem. Chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Qu'un juif a cette capacité de faire une mitzvah de manière désintéressée. Et qu'à un moment dans la vie, on est forcément obligé d'atteindre ce niveau-là, parce que tous les intérêts ont leurs limites. Un intérêt, tu dis, je fais pour ça, tu fais une fois, deux fois, trois fois, à un moment, bon, l'intérêt t'intéresse plus. Combien de fois tu veux dire Gan Eden? Tu l'as pas vu le Gan Eden?
C'est parce que de Rachmanot et Gmoud Chassadim de manière désintéressante, on peut faire d'autres choses de manière désintéressante.
Non, parce que les autres, parce que là on parle du caractère primaire qui est chez une personne. On ne parle pas des mitzvot. Les mitzvot, c'est du tov. Ouais. Les tov, c'est encore la troisième catégorie. Là, on t'a pas touché du tout au tov. Là, on parle du caractère primaire, c'est la nature primaire qu'a chez une personne.
S'énerver, ça peut pas être du tov, mais inné,
pas du tout.
Naturel.
Ah bah non, s'énerver, si je m'énerve, c'est que c'est intéressé. C'est que ça m'a touché. Oui, mais ça m'a touché.
Non, ça me touche pas moi personnellement, ça me touche jamais.
Est-ce que c'est une mitzvah? Si c'était une mitzvah, dans ce cas-là, on passe du côté tov. En général, si je m'énerve, c'est que ça m'a énervé. Donc si ça m'a énervé,
aucun
c'est...
Aucun cas, ce n'est bon.
Ah non, aucun cas, ce n'est bon. Sauf si c'est un cas qui est une mitzvah. Mais ça, on verra plus tard. On verra plus ça, c'est des notions qu'on verra plus tard. De manière générale, le cas, c'est très mauvais. Parce que le cas, c'est Avodah Zara.
Pourquoi la colère?
Bien sûr. Si je m'énerve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Rabinou dans le chapitre 53.
Ben, ça lui a été reproché. Ça lui a été reproché.
Plus loin, je crois encore.
Parce que si je m'énerve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que la manière comment les choses se sont passées, c'est pas comme ça aurait dû se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a décidé que les choses se passent comme ça. Moi, Mendy Asouline, je dis, ça aurait pas dû se passer comme ça, donc je m'énerve. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, je pense pas comme ça. Mais c'est ça, le fond, c'est ça.
Non, parce que peut-être que Dieu a fait ça pour que tu t'énerves.
Ah non. Pourquoi Dieu veut? Dieu veut qu'un. Est-ce qu'un parent il veut que son fils s'énerve?
Non, mais ça peut avoir un.
Non, mais quand on s'énerve contre nos enfants, des fois c'est fondé. C'est parce qu'on veut que. Tu vois, c'est.
Des fois, on cache une porte. C'est comme ça. Et c'est un moteur pour les faire avancer.
Si Dieu a fait que je l'ai raté, c'est que je devais le rater. Si Dieu a fait que j'ai pris l'autoroute et que j'ai raté la sortie, c'est que je devais la rater la sortie. Ça sert à rien d'insulter ta femme et les enfants qui t'ont distrait de la route. Ça sert à rien. Ça va rien changer.
Il y a différents types de colère.
Quoi ?
Il y a différents types de colère.
Oui. C'est ce qu'a dit David. David a touché à ce qu'on avait vu de plus loin dans Tania, qui a la colère et l'énervement. C'est pas la même chose. Mais ça, c'est le chapitre 53.
Non, la fermeté.
Tu te rappelles, David ?
La fermeté.
Il y a la colère et il y a l'énervement. Il y a aussi la notion qu'on dit qu'un maître, des fois, hein, il doit se montrer énervé devant ses élèves, quand ses élèves n'écoutent pas.
Ah oui,
pour bien faire. Donc. Ben, mais ça, on
va. Tu dis qu'il suit beaucoup le Rambam.
Oui.
Aucune mida n'est mauvaise à
100%. Oui, c'est vrai.
Il faut prendre le milieu. Donc, tu as le casse, dans la mida du casse, tu prends le milieu du casse. Tu jettes pas tout.
Donc, ça doit être du bien.
Non, c'est le milieu, c'est pas le bien. C'est le milieu.
Là, pour l'instant, par définition, s'il y a du casse et que c'est pas une mitzvah, c'est-à-dire c'est pas pour éduquer quelqu'un, c'est pas pour faire une mitzvah, c'est du mal. Après, on va passer dans l'âme divine, comment expliquer comment on retrouve ça chez le juif en tant que mitzvah. Mais là, j'ai pas touché à ça encore. Là, pour l'instant, je parle du côté primaire qui est en nous. Mais encore une fois, je répète, ça fait peut-être la dixième fois que je répète, mais c'est très important parce que moi, je me rappelle quand j'avais préparé ce chapitre, quand j'avais écouté ça aussi à la yeshiva, ça me dérangeait beaucoup cette notion de dire que c'est mal. Il faut pas prendre ça comme du mal. Il faut prendre ça comme quelque chose d'égocentrique. On a été créé comme ça. Le monde entier est égocentrique. Seulement un juif, il a cette chance et cette capacité que Dieu lui a donnée de faire les choses sans intérêt. C'est une chance que Dieu nous a donnée. Il faut dire merci pour ça. Mais même nous les juifs, on n'arrive pas toujours à la mettre en pratique. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. La majorité des choses qu'on fait, 99,9% des choses qu'on fait, c'est par intérêt. Il y a toujours un intérêt. Même un intérêt noble, comme avoir le Gan Eden, comme... D'accord ? Tout ? Même les enfants. Même les enfants, c'est un intérêt. Tout a un intérêt.
Ah, c'est le capital.
C'est plus qu'un intérêt.
D'accord.
C'est un capital.
Alors, ma chaîne, Ken, si vous voulez bien, on va terminer le chapitre. Et après, je vais vous montrer le fil du Tania pour vous montrer d'où on vient et où on va. Ma chaîne, Ken, nafshot umot haolam. Alors que les âmes, umot haolam, donc des nations, em mishar klipot tmeot, viennent des trois klipotes impures, sh'en ba'em tov klal, qui n'ont pas du tout de bien. Sont entièrement égocentriques. Que moi je ketouf b'etzraim, sh'ar même tête perek gimel, comme c'est écrit dans Etzraim, donc de Rabbi Chaim Vital, Porte 49, d'accord ? Porte 49, chapitre 3. C'est comme dans un aéroport. Ok, alors maintenant... Ok, maintenant, il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourtant, on voit qu'il y a des nations qui font du bien. La question qu'on s'est tous posée, et là, il vous dit ce que je vais expliquer à l'oral, dit dans les mots. Veroltivou, car tout le bien, à part pour les chassidomotolem, les juifs des nations, mais à part eux, coltivou, tout bien, des avdin aoumot, que font les nations, les garmaï ou avdin, ils le font pour eux. Donc, par intérêt.
Voilà.
D'accord? Ou deita bigmara, comme c'est écrit dans la Gemara, al pasuk, sur le verset, chesed leumim khatat. La Gemara, elle s'arrête sur le verset qui dit, chesed leumim khatat. Que le chesed des nations est une faute. La Gemara dit, c'est un verset qui est écrit comme ça, c'est écrit clairement dans Michelet. Le roi Salomon dit, le bien des nations est une faute. Ça veut dire quoi que le bien des nations est une faute? D'accord. Alors, comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit chez Kol Tzedaka Vachesed que car toute Tzedaka et toute bonté chez Umat Haolam Osim que les nations font, Einam Ela les Itir, ils le font seulement pour s'enorgueillir.
Par intérêt.
Donc par intérêt.
Voilà.
À part, comme on a dit, les Juifs des nations. Alors, je me rappelle que c'est une notion qui était assez compliquée. Et j'ai trouvé, j'ai cherché dans beaucoup de commentaires du Tania pour essayer de comprendre de manière un peu plus profonde l'idée qu'il veut expliquer ici. Comment, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret dans lequel on peut dire voilà comment un juif aurait réagi, voilà comment un non-juif aurait réagi?
Est-ce qu'un homme, il se travaille?
Alors, j'y arrive. Le Rav Stenzaltz, dans son commentaire sur le Tania, il amène l'exemple suivant. Je trouve que c'est un exemple qui est très intéressant. Il dit, on connaît beaucoup de non-juifs aujourd'hui qui ont des fonds, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'argent, comme Bill Gates par exemple, qui ont des fondations pour aider des pays du tiers-monde qui sont très pauvres. D'accord ?
Pour réduire les impôts.
Il y a des... Non, pas forcément, non.
T'as des gens
comme Bill Gates, il a laissé 10 millions pour son fils, d'accord ? Et bon, tout le reste, il a mis dans des fondations, je sais pas quoi. D'accord ? Donc c'est beau. Il a donné... c'est énorme. Alors, il a donné... C'est rien ce qu'il a donné à son fils par rapport à l'argent qu'il a. Bill Gates, le patron de Microsoft.
Il fait
alors, c'est bien ce qu'il fait, c'est magnifique ce qu'il fait. Je veux dire, c'est son argent, il aurait pu le garder pour lui. D'accord ? Où est la différence entre un juif et un non-juif ? Il donne l'exemple suivant, il dit c'est très simple. Il dit, imaginons, en théorie, qu'un jour arrive, et qu'on vient voir Monsieur Bill Gates, donc Monsieur Bill Gates ou ses grands philanthropes, et qu'on lui dit, il n'y a plus de pays du tiers-monde, c'est fini. Tous les pays du tiers-monde, maintenant, ils sont riches. Il n'y a plus personne à qui aider.
Alors,
quelle va être la réaction?
Ils vont donner à la France.
Chose, zut ou tant mieux?
Tant mieux.
Tant mieux.
Zut, j'aurais voulu aider. Ou bien tant mieux, tout le monde va bien.
Tant mieux.
Ouais, c'est une question compliquée. Quand? Exactement. Mais c'est pas négatif, c'est la nature d'un homme. C'est déjà extraordinaire qu'il a pris son argent qu'il a donné. Parce que il a choisi un intérêt noble. Il aurait pu choisir un intérêt d'aller faire des bêtises avec ça. C'est beau l'intérêt qu'il a choisi, mais il y a un intérêt. Et c'est pour ça que quand il peut plus y avoir cet intérêt, forcément, qu'est-ce qu'il dira? Dommage. Alors que le juif, peut-être qu'il dira aussi dommage, c'est possible. Mais il a cette capacité de trouver en soi les forces de dire,
mais Warren Buffett,
tant mieux.
Il a fait la même chose, il est juif.
Bien sûr.
Il a fait exactement.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dira le juif? D'accord? C'est le Rav Stenzaltz qui donne, que Dieu lui donne une refoua shlema. C'est le Rav Stenzaltz qui donne cet exemple, qui dit, qu'est-ce que dira le juif? Le juif dira, tant mieux. Alors, il faut que je vous raconte une histoire. D'accord? Non, pas tant que je vais économiser de l'oseille. Tant mieux, tout le monde va bien! Alors, je vais vous raconter une histoire. Allez, Rabotai, je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Vous savez, quand l'Admor Hazaken a été incarcéré, quand l'Admor Hazaken était en prison, à un moment, il y a eu ce qu'on appelait un panel de professeurs et de grands scientifiques russes qui devaient l'interroger en prison. Parce que on n'était pas très d'accord avec avec les nouvelles théologies qu'il était en train de lancer, donc on a amené un panel de plusieurs personnes pour l'interroger. Donc ils lui ont posé plusieurs questions. D'accord? Donc je vous en ai déjà parlé, d'accord? Vous en avez déjà parlé parce que ça a été retranscrit en russe et récemment en 89, comme les Russes ils gardent tout. Donc ça, quand avec l'effondrement du communisme, on a retrouvé les archives avec les photos, etc. et tout. Enfin, pas les photos, les dessins, d'accord. Et on a tout retrouvé. Tout est là. Et ça a été retraduit. D'accord. C'est les Russes. On a les photocopies du manuscrit en russe. Alors, on lui a posé plusieurs questions. Écoutez bien les questions qu'on lui a posées. On lui a posé 22 questions. 22 questions. Des questions très profondes. Qu'est-ce que c'est un juif? Quelle est la différence entre un juif et un non-juif? Des notions très profondes de chassidout, des goyim. Ouais. Et l'Admor Hazaken d'ailleurs a témoigné plus tard que c'était très difficile pour lui, ces questions-là. Parce que expliquer des notions tellement fines, devoir se rabaisser pour les expliquer à une personne qui n'a jamais étudié la Torah, c'est très compliqué. C'était très compliqué. La dernière question qu'ils lui ont posée. Dernière question qu'ils lui ont posée. 23e question.
22e.
D'accord? 23e. Oh. Question qu'ils lui ont posée. Ils lui ont dit, pourquoi à la fin du premier chapitre de votre Tania, ils avaient étudié. Enfin, en tout cas, ils avaient eu l'information. Oui. Pourquoi, à la fin du premier chapitre de votre Tania, vous avez écrit que tout le bien que les nations font, c'est pour eux? Alors, en vérité, il a rien inventé, l'Admor Hazaken. Il a fait que répéter ce qui était écrit dans la Gemara et de Rabbi Chaim Vital. Mais eux, ils ont vu que l'Admor Hazaken a écrit ça. Donc, ils ont posé la question à l'Admor Hazaken. Ils ont dit, pourquoi vous avez écrit ça? Comment vous expliquez ça? Ça veut dire, en d'autres termes, nous, les nations, tout ce qu'on fait, c'est pour s'enorgueillir. Comment vous expliquez ça? Et l'Admor Hazaken, pour répondre, il a souri. Et c'est tout. Ils lui ont dit, c'est bon, vous pouvez partir. Alors, chez les chassidim, il y a eu tout un débat pour comprendre, mais où était la réponse? C'est vrai qu'il a souri. En quoi c'est une réponse de sourire? Et une des manières d'expliquer ça, c'est que, surtout aujourd'hui, on comprend ça maintenant qu'on voit le plaidoyer. c'est que les 22 premières réponses, il les a répondues de manière tellement brillante que le sourire veut dire, vous avez pas envie que je vous réponde à cette question. Du style, vous allez être déçu. Donc il n'a pas répondu à cette question. Il n'a pas répondu, bon, ils se sont restés là, et quelques heures plus tard, il a été libéré. D'accord? Il a été libéré de prison, pour ne pas les gêner. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, on a en vérité une notion très très puissante. De quoi? La réponse, nous, on l'a. Mais lui, il n'a pas voulu la répondre à eux. Qu'est-ce que tu vas leur dire? T'es un naze? Il dit, bon, fais comme si tu n'as pas compris, on en reste là. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, ce qu'on a appris à la fin de ce premier chapitre, sans même toucher à l'âme divine qui va rentrer en fonction quand on fait les mitzvot, quand on va faire la tefila, quand on va étudier la Torah, ça veut dire même si tu es un juif qui va pas toucher à la Torah, il fait aucune mitzvah, il a jamais ouvert un livre de Torah, rien, zéro. Il fait aucune mitzvah, il fait que des averot. Dès le départ, dans son âme animale, dans son âme primaire, il est pas comme les autres. Il est pas comme les autres. Les autres, il y a que des intérêts, sauf quelques personnes qui sont les justes parmi les nations. Le juif a cette capacité de faire le bien parce que c'est le bien. Ça, c'est le Rambam qui donne cette définition. Il dit que un juif a cette capacité d'arriver au niveau de osé atov mi pene shehu tov. Il fait le bien parce que c'est du bien. Le Rambam, il le tient de la Gemara. Il fait le bien parce que c'est le bien. Pourquoi tu fais le bien? Pas parce que j'aurai un Gan Eden, pas parce que j'ai peur du Gehinnom, pas parce que je vais être récompensé, pas parce que j'ai envie de kiffer, pas parce que je me sens pas bien, ça me fait de la peine de voir quelqu'un qui souffre. Je fais le bien parce que c'est le bien. Est-ce qu'on arrive tous à ce niveau-là? Je sais pas. Mais en tout cas, on peut arriver à ce niveau-là.
C'est héréditaire.
100%. Ça vient d'Avraham Avinu, ça.
Donc, avant Avraham, il n'y avait pas.
Il n'y avait pas. C'est unique, ça.
C'est une création.
C'est deux séries.
Une nouvelle Neshama qui a été...
Echad Tzadik, Echad Racha. Un juif, deux séries. Même si c'est un juif qui fait toute la vérité au monde, qui n'a jamais fait une mitzvah, il est différent. Dans sa conception, il est différent.
C'est notre parcours en Égypte qui nous a donné cette fonction.
Il a cette capacité de faire le bien parce que c'est le bien, sans chercher l'intérêt. Maintenant, malheureusement, on voit souvent les juifs qui cherchent des intérêts, c'est comme ça qu'on vit, mais un juif a cette capacité de chercher, a cette capacité de faire le bien parce que c'est le bien. Alors, si vous voulez bien maintenant.
Quand tu viens avant, c'est bien un homme qu'une femme?
Aucune différence. Un homme, une femme, un enfant, un nourrisson, tout le monde.
Tout le monde, pareil.
D'accord? Alors, cette feuille-là, vous pouvez la garder, vous allez la mettre dans votre Tania. Non. La bar mitzvah, c'est l'âme divine. L'âme divine, j'ai pas touché encore. C'est la semaine prochaine, ça. Alors, ça en fait, je me suis basé sur un résumé qu'on avait fait dans le premier cycle du Tania, mais je l'ai retravaillé. Je l'ai fait différemment. Alors, cette feuille-là, il y a recto verso. Tenez. En fait, je l'ai étudié de manière à... Je vais être honnête avec vous, le document que j'ai fait, c'est un document que j'aurais aimé avoir eu lorsque j'ai étudié le Tania la première fois. Parce que j'avais beaucoup de mal à suivre la structure.
Toi, tu l'as fait.
D'accord. Non, mais comme j'avais cette frustration quand j'avais étudié le Tania.
Ah, tu comprends
pas. Non, c'est pas que je comprenais pas. C'est que des fois, première fois quand j'étais allé à Yeshiva, on avait commencé à 13-14 ans. Ah ouais. On avait du mal à comprendre le fil.
Imagine nous alors.
Ah, d'accord. Et comme j'ai senti cette frustration, donc je comprends ce que vous ressentez. Donc c'est pour ça que j'ai préparé ce document. Alors regardez. Là, ce document, il va résumer seulement les chapitres 1 à 17. Donc, dans la face A, vous avez chapitre 1 à 8, d'accord, conception spirituelle du juif. Dans la face B, vous avez 9 à 17, comprendre le combat des âmes. D'accord? Donc, premièrement, avant même de comprendre quel est le combat des âmes, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va pas le lire. Juste, je vais vous montrer les grands titres, pour vous montrer ce qu'on va faire.
Le programme jusqu'au mois d'août,
hein? Jusqu'au mois d'août, ouais, probablement, ouais.
Ah ouais?
Voilà, ouais.
Alors, est-ce qu'on peut répondre à la première question?
Très facilement. Donc j'y vais. Regardez. Voilà les thèmes qu'on va traiter. Et voilà la structure qu'on va suivre. Et Be'ezrat Hashem, chaque fois qu'on finira un chapitre, un ou deux chapitres, d'accord, on rouvrira ce document pour voir où on en est. D'accord? Donc, les questions. Regardez, on va prendre le 1A. Donc, 1, le chapitre 1 ou 2, qui va nous développer les deux âmes. 1A, c'était les questions. Comment dois-je me voir? Autosatisfaction? Quelle est la définition absolue du bien et du mal? Qu'est-ce qu'un Benoni? D'accord? Paradoxe et variation dans mon comportement. Alors, qui suis-je réellement? Déterminisme. Certains sont-ils conçus pour être rachats? Libre arbitre. Ça, c'est les questions qu'on a posées, les grandes questions qu'on a posées la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui? 1B, donc la deuxième partie du chapitre 1, l'âme animale, primaire. On a expliqué la différence entre universel et chez le juif. Universel, ça veut dire chez toutes les nations et dans tout le monde entier. C'est la source des mauvaises midotes. Donc, on a expliqué l'eau, le feu, le vent et la terre. D'accord? Donc, le feu, c'était la colère. La colère et l'orgueil, l'eau c'était la recherche des plaisirs, le vent c'est la frivolité, la recherche du vide, la terre c'est la paresse et la déprime. Ça vient des trois clipotes. Mais on a expliqué à la fin que chez le juif, Chez le juif, qu'est-ce qu'on a expliqué? Chez le juif, c'est la source de la bonté désintéressée.
Que
chez...
trois clipotes.
Parce qu'on expliquera dans chapitre 3. Shalosh clipotes, Gimel clipotes, il a dit. Gimel clipotes. Trois clipotes. Chapitre, chapitre 6, on verra ça. Trois clipotes. Qu'est-ce que c'est les trois clipotes? Ensuite, chapitre 2, on va parler de l'âme divine. On va faire que les titres. Chapitre 2, on va parler de l'âme divine. Ensuite, du chapitre 3 au chapitre 5. Donc, dans le chapitre 2, on va parler de la base de l'âme divine. Quelle est l'origine de l'âme divine? Quelles sont les variétés de l'âme divine? Quel est le rôle d'un tzaddik? Quel est le rôle d'un rachat? Quel est le rôle des parents pour la création de l'âme divine? Ça, c'est chapitre 2. Chapitre 3, on va développer plus en détail l'âme divine, la structure de l'âme divine. Quelles sont les facultés intellectuelles? Quelles sont les facultés sentimentales? Quels sont les moyens qu'a cette âme divine de s'exprimer? Pensée, parole, action. Quelles sont ces manières que cette âme divine a de communiquer avec Dieu? Les mitzvot, la Torah. Ensuite, chapitre 6 et chapitre 8, on va s'arrêter sur l'âme animale. Qu'est-ce que c'est l'âme animale? Pourquoi Dieu a créé le mal dans le monde? D'accord? Est-ce que dans le mal il y a du bien? Est-ce que dans le bien il y a du mal? Qu'est-ce que c'est le mal absolu? Qu'est-ce que c'est le mal qui n'est pas absolu? D'accord? Toute cette notion-là de bien et de mal, chapitre 6 et chapitre 8. Ça va être des chapitres passionnants, ça aussi. Ensuite, on tourne la page. Une fois qu'on aura bien compris qu'est-ce que c'est l'âme divine et l'âme animale, et quelle est leur structure interne, maintenant on va comprendre le combat. Quel est le combat entre l'âme divine et l'âme animale? Et une fois qu'on aura compris le combat, on expliquera qu'il y a trois types d'acteurs, le tzaddik, le rachat et le benoni. C'est-à-dire qu'il y a trois joueurs, trois types de joueurs. Ah, c'est comme dans un match. Tu as le goal, enfin pas le goal, comment on appelle ça,
l'attaquant, le
défenseur. Comment c'est, on dit celui qui est au cage?
Le goal, d'accord.
Le goal, là, le gardien, t'as l'attaquant, chacun son rôle. Donc t'as le tzaddik, le rachat, le benoni, chacun son rôle. On expliquera, une fois qu'on aura compris quelles sont les facultés intérieures et quel est le combat, on comprendra où est la fonction de chacun et pourquoi un ça marche, l'autre ça marche pas. Quelle est ma fonction? Une fois qu'on aura expliqué tout ça, on comprendra que la fonction de 99,9% des gens, c'est de devenir un bénoni. Et là, chapitre 13 à chapitre 17, on expliquera qu'est-ce que c'est un bénoni, comment chacun peut devenir bénoni, quelles sont les techniques pour devenir bénoni, quelles sont les réflexions à avoir pour devenir bénoni, la méditation, l'action concrète, enfin, plein de techniques, tout ça c'est le chapitre 13 au chapitre 17. Quand on arrivera au chapitre 17, déjà, Baruch HaShem, ce sera déjà, Baruch HaShem, une belle paire de manches. C'est déjà quelque chose de très beau qu'on aura déjà fait. Donc, Bezrat HaShem, voilà le programme. Donc, je vous conseille de garder ça. Peut-être même mettez vos notes dessus au fur et à mesure du temps. Et Bezrat HaShem, on reviendra dessus au fur et à mesure des chapitres. Donc, la semaine prochaine, on va commencer à développer l'âme divine, ses origines, ses variétés, la différence entre l'âme divine d'un tzaddik, la différence entre l'âme divine d'un tzaddik d'un homme normal, pourquoi on doit aller voir des tzaddikim, est-ce qu'il y a des gens qui ont une âme divine spéciale par rapport à d'autres, d'accord? Pourquoi on a besoin de s'attacher au tzaddik? Est-ce que les parents peuvent avoir une influence sur l'âme divine de leur enfant? Toutes les réponses à ces questions, Bezrat Hashem. Voilà. Merci. Oui. On a répondu. Les goïms, il y a les goïms, les chassidou mata olam. Eux, les chassidou mata.
Je parle de Rafi, de quelqu'un qui. Est-ce que un juif peut avoir sa part d'influence?
Je rappelle ta question. Je vais répondre à la question. Un juif, je peux t'envoyer le PDF si tu veux, Alain. Un juif. On va commencer par le non-juif. Un non-juif, on a dit que c'est forcément intéressé. Ouais. Sauf s'il est chassidou mata olam. Bon. Mais son travail va être au niveau de l'intérêt. Quel intérêt il va avoir? Est-ce que c'est un intérêt qui est grossier ou est-ce que c'est un intérêt qui est noble? Ouais. Tu vois, ce monsieur Bill Gates, par exemple, avec son argent, ouais, il aurait pu avoir la recherche des plaisirs, acheter encore un yacht, acheter encore un avion, acheter encore un aéroport, acheter encore une île. Il a préféré d'avoir un intérêt noble. C'est beau! On est toujours dans l'intérêt, mais il a choisi un intérêt noble. Le juif, c'est une autre ligue. Le juif, il a la capacité de faire sans intérêt. C'est trop chaud, c'est une autre ligue, ça n'a rien à voir. Sans toucher encore l'âme divine.
Donc le raffinement, il est sur le type d'intérêt. Pour le
voilà. Sauf s'il devient chassidou mata olam, que là, bon voilà, c'est une exception, qui confirme la règle.
Ça, tu peux pas le savoir tant qu'il n'est pas mis devant le.
Oui.
Devant une vraie sakana.
Exactement, ouais. Voilà.
C'est son action.
On peut pas le savoir ça. On peut le savoir qu'après.
C'est l'action qui fait qu'il devient ou c'est parce qu'il avait déjà en lui.
Non, il a raison. C'est ma question qu'il a posée. Il y a un travail aussi qui fait.
Non, mais face.
Il y a un travail de se travailler pour ne pas chercher à se faire un plaisir qui est grossier, mais chercher quelque chose de plus raffiné. Mais il y a forcément quelque chose, un plaisir. Il y a forcément un plaisir ou une satisfaction. C'est la nuance entre plaisir et satisfaction. Quelle est la différence entre plaisir et satisfaction? Plaisir, c'est plus primaire, c'est plus grossier. Satisfaction, c'est plus fin, c'est plus raffiné. D'accord? Donc. Oui, mais une satisfaction, c'est plus raffiné, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Mais c'est toujours égocentrique. Mais c'est plus raffiné. Le juif, il a la capacité de faire quelque chose sans chercher aucun plaisir, aucune satisfaction. Non ?
Il y a trois mots que tu n'as pas expliqué.
Oui.
Misot, et sadat, tovara.
Oui, parce que et sadat, c'est l'arbre de la connaissance. Dans l'arbre de la connaissance. Voilà. On dit comme ça. Il y a l'arbre du mal. C'est le nachash. Il y a le et sachaim, l'arbre de la vie. Ça, c'est le bien. Et il y a l'arbre de la connaissance. C'est le fruit. Ça pouvait servir au bien et au mal. Le fruit qu'Adam Arishon, le fruit défendu, à l'entrée de Shabbat, il était permis.
Ouais.
D'accord ? Seulement, il n'a pas attendu, donc ce fruit qui était permis dans 3 heures est devenu interdit. Donc c'est neutre. Le fruit en soi, il était neutre. Le fruit d'après le Halcher, le Halcher Raman Gmara, qui dit que c'était le raisin. Et que c'était le raisin avec lequel Adam Arishon devait faire le kiddush le soir, le premier vendredi soir. Il ne l'a pas fait, donc nous on fait le kiddush maintenant tout le vendredi soir.
Pourquoi cette klipa-là qu'on a nous en plus, ça vient de ce yesod-là ?
Parce que chez les nations, ça vient de la klipa du mal, la klipa égocentrique. Chez nous, notre âme animale ne vient pas de trois klipotes, elle vient de la klipat noga. Et comme dans la klipat noga, il y a du bien et du mal, c'est ce qui explique le fait que chez les juifs, de manière, leur neshama, leur âme primaire, elle peut d'un côté les pousser à faire les choses de manière égocentrique, donc ça c'est le côté mauvais, mais d'un autre côté, elle peut les pousser aussi à faire les choses sans intérêt. Donc on peut avoir les deux directions.
Donc l'âme animale du juif ne vient pas du même endroit que l'âme animale du goy.
Exactement. Ils n'ont pas la même conception.
Dès le départ.
Dès le départ. Rouage. Voilà.
Allez, ça s'arrête là pour aujourd'hui.
Marive.
Oui.